Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, comme je vous veux du bien, je vous souffle à l'oreille ce conseil. L'une des plus jolies façons de démarrer l'année est sans doute de plonger dans la lecture enivrante du dernier roman de Sophie Fontanelle, Nobel, publié chez Robert Laffont. On plante le décor. L'été parfait, l'été absolu, à Saint-Paul-de-Vence en 1972, Annette, une petite fille de 10 ans, comprend qu'elle a un don pour écrire alors que son amoureux du même âge, Magnus, fils d'un éditeur, ne l'a pas. Ah oui, le talent a sa propre géographie. Magnus, au désespoir de son père, ne sera sans doute jamais écrivain. Alors un jour, il vole, il dérobe, il s'approprie les poèmes d'Annette comme on vole à l'autre pour exister, pour séduire un peu de son talent. Au-delà du chagrin et de la trahison, il y a alors cette révélation magnifique du pouvoir et de la fascination qu'exercent ceux qui savent recréer le monde avec des mots. Un monde plus intense, plus vibrant.
Europe 1.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Oh, c'est beau. Merci.
Sophie Fontanelle, ce nouveau roman, Nobel, met en lumière le miracle de la créativité car écrire, ce n'est pas d'écrire.
Non, le petit garçon arrive à décrire, enfin. Il arrive tant bien que mal, parce qu'il est un peu intimidé, mais le problème, c'est qu'elle, quand elle décrit, elle est déjà en train d'inventer les choses. Elle donne un sens supérieur aux choses. Et lui, il appelle un chat, quoi.
Bon, quand on met la vie en mots, c'est que peut-être la vie ne se suffit pas à elle-même, ou ne vous suffit pas. On a besoin d'un processus donc, de recréation, comme les cinéastes avec leurs films, les peintres avec leurs couleurs, les compositeurs avec leurs notes de musique, c'est ça ?
Ça,
est-ce que la vie vous suffit ?
Moi, dans mon cas, la vie qui pourtant m'apporte des félicités vraiment innombrables, il y a quand même quelque chose qui ne me suffit pas. J'ai toujours envie de prouver qu'on peut vivre un niveau plus exaltant.
Le roman, l'écriture, répare la réalité ? C'est de la réalité augmentée ?
En fait, j'écris sans doute... Sans doute que j'écris pour réparer ma réalité, sans doute, mais j'ai quand même, avec les années, parce que je suis quand même née en 1812, et j'ai quand même, avec les années, appris...
Elle est beaucoup plus jeune que moi,
appris.
Sophie, non, mais, je le précise.
pas tant que ça. En fait, j'écris pour toucher l'autre, voilà. C'est peut-être aussi quelque chose que d'autres écrivains devraient faire. Et c'est un déficit chez moi. C'est que pour moi, l'amour, se toucher, etc., est quelque chose de tellement... Pour moi, c'est tellement dingue que donc, du coup, ça ne m'arrive pas très souvent. Et en écrivant, je touche les autres.
Alors, votre héroïne, Sophie Fontanelle, a 10 ans. Elle ne sait pas encore que l'écriture répare la réalité. Pour elle, elle magnifie la réalité, elle lui donne une profondeur. Vous croyez aux vocations précoces, aux êtres touchés par le talent comme on est touché par la grâce, sans l'avoir cherché ?
Ah ben alors, non seulement j'y crois, c'est parti que j'y croyais. Et puis après, j'ai juste vu que c'était la réalité. Quelqu'un m'a dit que Borges, par exemple, à 10 ans, quelqu'un écrit en disant qu'il connaissait Borges quand il avait 10 ans, a dit à 10 ans, il écrivait déjà comme Borges. Il y a une infinité d'anecdotes sur des écrivains qui commencent à écrire très jeunes. Proust fait de son narrateur dans La recherche du temps perdu quelqu'un qui commence à écrire, il a 11 ans. Donc ça vient jeune, ça vient très tôt. On n'a pas dit que c'était génial ce qu'on écrivait, mais ça vient très tôt.
La graine est là. Alors vous citez dans ce roman... La phrase cruelle de Cocteau au sujet de Minou Drouet, jeune poétesse de 9 ans, donc publiée par Julliard à la fin des années 50, et décriée à l'époque par le monde littéraire. Cocteau disait, bon, tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet. La précocité du génie, vous pensez qu'elle effraie les adultes? Elle les renvoie à leurs limites, à eux?
Les adultes sont ambivalents. D'un côté, ils sont d'accord pour dire que les dessins d'enfants, c'est charmant. Mais de l'autre... Le talent de certains enfants les effraie. Et c'est pour ça aussi que parfois ils les emmènent chez le psy. Et quand c'est une petite fille, parce que vous parlez de Minou Drouet, mais Minou Drouet, quand elle envoie son manuscrit chez Julliard, elle a 8 ans, elle va être éditée et sa 9e et 10e année, ça va être un cauchemar. Parce qu'à la fois, elle va avoir du succès et à la fois, les gens ne disent pas que c'est nul. Ils disent... Mais quand je dis « il », c'est André Breton, Jean Cocteau, etc.
Ce n'est pas d'elle.
Ça n'est pas possible qu'un enfant soit capable de voir le monde de cette manière. Ils avaient tort, On l'a enfermée dans un bureau, Minou Drouet. On l'a obligée à écrire, enfermée dans une pièce, mm-hmm. pour prouver qu'elle savait bien écrire. Enfin, c'est... ce qui est arrivé à cette petite fille est terrifiant. Ça m'a beaucoup inspirée pour écrire l'histoire d'Annette, qui n'est absolument pas l'histoire de Minou Drouet. Hein.
Mais vous dédiez à Minou Drouet ce roman Nobel. Alors, vos héros, donc, 10 ans à 10 ans, on est sans filtre. Et l'imaginaire est vaste. Le monde est neuf, n'est-ce pas? Parce que c'est un roman gourmand. En fait, Annette invente des mots.
Mais Annette, elle, les mots, c'est des bonbons pour elle. Et donc, pour elle, c'est facile. Il y a aussi, je voulais, un enfant qui n'a pas toute cette légende sur l'angoisse de la page blanche, sur la douleur, et on écrit pour dire sa douleur. Non, Annette, elle écrit pour dire dès qu'elle est enchantée. Dès qu'elle est extasiée, elle écrit. Alors évidemment, le drame d'Annette, en fait, qui fait le cœur de ce livre, c'est que... elle sait écrire, elle le découvre, et quand elle tombe amoureuse, elle se dit « ça va être encore plus beau, mon histoire d'amour, si je l'enrobe de mots ». Mais évidemment, le pauvre garçon en face, à 10 ans, il est complètement décontenancé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des beaux petits cheveux, une petite fille avec ses deux bras, ses deux jambes et son beau sourire, il a en plus des poèmes.
Décontenancé, mais il est conscient du pouvoir des mots, puisqu'il va les subtiliser, les mots d'Annette, pour séduire à son tour une autre petite fille. Il lui vole ses poèmes.
Il voit tout à fait le talent de la petite fille. Et d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un dit. Il y a un grand écrivain dans ce livre qui est une sorte de sage, comme ça, et qui va dire à Annette un jour, il dit, mais s'il t'a volé tes mots, c'est parce que tes mots, ça te prouve que tu es, elle veut être écrivaste. Avec, comme on dit le mot vaste, ben, ça te prouve que tu es écrivaste. L'enfant reconnaît son talent. Ce qui ne va pas dans la vie d'Annette, c'est qu'elle n'arrive pas à amener vers elle ce petit garçon par ses mots. Il va prendre les mots pour les donner à une autre.
Alors, il y a dans votre livre, Sophie Fontanelle, ce qu'on peut appeler l'érotisme innocent, mais brûlant, des amours enfantines.
Alors là, je suis tellement contente que vous parliez de ça.
Ah
Parce que je voulais, c'est pour ça que j'ai imaginé des enfants de 10 ans, je voulais un âge où, en fait, tout peut être érotique, sans aucune conscience de la part des enfants que ça l'est. Et je ne voulais pas les mettre, ça peut l'être évidemment quand on est plus jeune, mais là ils sont vraiment au seuil, le garçon comme, n'a pas encore le visage tout déformé qu'on va avoir à l'adolescence, il est encore d'ailleurs plein des rondeurs de l'enfance, il est lui-même comme un gâteau, comme un bonbon, et ils sont encore à un âge où ils ne savent pas qu'en fait, quand il dit « on va jouer dans la piscine, je vais écarter mes jambes et toi tu vas passer sous l'eau, tu vas plonger et tu vas passer entre mes jambes », et elle est là fascinée à l'idée qu'il faut ouvrir les yeux, qu'elle voit ses jambes, son maillot de bain, qu'il ne faut pas rentrer dans le maillot de bain, qu'il faut passer vraiment entre les jambes. Tout ça, nous, adultes, on se dit « oula, 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 c'est chaud !»
Le lecteur ressent tout ça.
Mais eux, ils ne le voient pas.
Oui.
Ils ne le voient pas.
Alors, revenons au talent d'écrire. Avoir donc ce que vous appelez, d'ailleurs, j'aime beaucoup la formule, des mots dans les doigts. Votre héroïne comprend qu'elle a ce talent quand, à l'enterrement de son grand-père, elle récite un poème de son cru que l'on prend pour un poème d'Aragon. Quand avez-vous compris, vous, Sophie Fontanelle, que vous aviez des mots dans les doigts?
Alors, on m'a déjà posé la question, mais je m'en souviens absolument plus. Non, en fait, j'ai écrit parce que j'avais une guitare et j'écrivais des chansons. Et donc, j'ai commencé à chanter. Et ce qui est vrai par rapport à ce que j'ai imaginé là, par rapport à cette scène où elle se met debout sur une tombe à l'enterrement pour dire le mort, en fait, pour chanter son grand-père, c'est que j'avais découvert que quand toute la famille était réunie pour un enterrement, c'était le très très bon moment pour surgir avec la guitare et que tout le monde me regarde. Déjà un peu exhibitionniste, alors je prenais la guitare et je chantais le mort. Donc ça, c'est la vérité. J'ai fait ça quand j'étais enfant.
Oui, oui.
Et assez rapidement, quand j'ai eu, je sais pas, 13-14 ans, j'ai rencontré une femme qui s'occupait de l'Eurovision. Et puis après, je suis partie dans des maisons de disques. Enfin, on s'occupait de moi, mais moi, j'étais chanteuse. C'était pas des livres que j'écrivais. Et puis, je n'ai pas eu de trahison comme Annette en connaît une.
C'est curieux, les mots... D'abord, vous les avez assumés en les faisant résonner. Vous étiez au départ chanteuse. C'est étonnant.
Mais il en reste quelque chose. Parce que, en fait, c'est aussi la facilité de... Moi, j'entends souvent des copains, mais qu'ils soient journalistes ou écrivains, parler de la page blanche. Et puis après, quand le livre sort, un ami m'a dit l'autre jour, tu dois être, je comprends ton stress et ton angoisse. Alors moi,
pas
ni
du tout,
page
c'est
blanche,
ça
ni stress. J'essaie toujours de me dire que j'ai une telle chance. J'ai une telle chance d'avoir cette possibilité d'élargir la vie, quoi, que je n'ai pas à me plaindre et j'écris, j'élargis.
Et ben voilà, élargir la vie. Europe 1. Eh bien nous, on va élargir et repousser encore l'horizon en se baladant cet après-midi de dimanche en compagnie de Sophie Fontanelle. C'était épatant. On la retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
J'aime quand le réveillon nous réunit et que l'apéritif est servi. Quand il y en a pour tous les goûts et que la surprise est au rendez-vous. J'aime quand c'est croquant, crémeux, moelleux, iodé et que la magie opère à chaque bouchée. Aujourd'hui, la plupart des magasins Picard sont ouverts toute la journée. Retrouvez-y toutes nos bouchées apéritives en édition limitée et passez un fabuleux réveillon. Picard, le plaisir s'invente chaque jour. Liste des magasins sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron, aujourd'hui pour le super week-end Lidl, ils font moins 20% sur une sélection de produits de luxe.
Moins 20% sur une sélection de luxe. Et ils sont ouverts aujourd'hui. Oh, on est mal.
Supermarché Lidl, exceptionnellement ouvert aujourd'hui. Info et horaires sur Lidl.fr.
Europe 1.
Excellent après-midi, c'est Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Isabelle Morizet. En face d'elle, aujourd'hui, la journaliste Sophie Fontanelle. 15h-16h sur Europe 1. Vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Les choses naissent bien quelque part. Où, comment et pourquoi naît le talent d'écrire? Le nouveau roman de Sophie Fontanelle, Nobel, qui paraît chez Robert Laffont, est envoûtant. Chère Sophie, qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui s'est toujours su écrivain, parce que je suis persuadée que vous avez toujours su que vous possédiez ce don. Qu'est-ce qui pousse donc une personne comme vous à démarrer dans la vie comme journaliste? Mais la nécessité... et pas comme auteur?
La nécessité de gagner sa vie, parce qu'en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai envoyé des manuscrits à des maisons d'édition 2 fois, et ça a été refusé, dont une fois avec une violence extraordinaire par quelqu'un qui a dit « je ne comprends pas comment on a pu penser que ce livre, ce manuscrit allait me plaire ». Donc je me suis dit « bon, bah, va falloir que je gagne ma vie ». Je ne me suis pas dit « je ne suis pas écrivain », je me suis dit « bah, j'ai peut-être raté ce livre, mais je réussirai la prochaine fois ». Et puis, il fallait que je gagne ma vie. J'avais aussi envie de m'émanciper et d'avoir un grand lit de place et de vivre dans ma vie. Hein. Donc, j'ai choisi ce métier de journaliste parce qu'il permettait d'écrire.
Votre grand-père, qui a fui le génocide arménien, était dans son pays professeur de littérature avant de devenir en France ébéniste. C'est lui qui vous a donné la gourmandise des mots? Ou bien, enfant, vous êtes allé les cueillir vous-même comme des fruits délicieux, ainsi que le fait la jeune héroïne de votre roman Nobel?
Alors je pense que ma mère, elle, était très imprégnée par son père qui avait un club de poésie, enfin vraiment qui était vraiment un intellectuel arménien avec toute une table ronde, enfin un petit salon quoi.
Oui.
Mais moi, je l'ai peu connu. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout ma mère. Et je vous dis juste une anecdote, c'est que ma mère aimait tellement la poésie et m'en faisait tellement apprendre par cœur que quand elle, plus tard dans la vie, elle a perdu la mémoire, un jour elle se taisait, elle faisait la tête et il m'est venu l'idée pour la faire parler parce qu'elle ne voulait pas répondre. J'ai dit « qu'est-ce donc? Qu'avez-vous ?» qui était le début de Misanthrope de Molière. Et elle m'a répondu, laissez-moi, je vous prie. Et j'ai dit, mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Et on s'est fait toute la scène. Et je l'ai fait revenir comme ça, en fait.
C'est très, très émouvant.
Bah, c'est la poésie. Est-ce que vous savez que la poésie, c'est une poésie apprise par cœur, c'est ce qu'on oublie en dernier dans sa vie.
D'ailleurs, les poèmes ont peuplé votre enfance, parce que vos parents, je crois savoir, aimaient bien en famille lire des vers à voix haute, qu'ils soient de Prévert ou de Musset. C'est quand même pas si fréquent que ça, en famille.
Non, on adorait ça. C'est-à-dire que ça nous reposait de Mariti et Gilbert Carpentier, devant lesquels nous étions absolument visés, et de Michel Drucker et de Daniel Gilbert. Enfin voilà. Donc c'était tellement la variété chez nous qu'à un moment donné, quand même, ils disaient « Ok, on ferme la télé. » Et là... On passait à Musset.
Bon, de ce rituel familial, Sophie Fontanelle, vous avez gardé une habitude. Il paraît que vous lisez à voix haute tout ce que vous écrivez. C'est vrai?
Non seulement je lis à voix haute, mais aussi, alors ça c'est aussi très drôle sur les conventions d'écriture, j'écris à voix haute. C'est-à-dire que maintenant, par
Siri... Au fur et à mesure que la phrase se forme.
Oui, mais pas toujours. Mais si, par exemple, je suis dans mon lit et que j'ai un peu mal au dos, etc., tout d'un coup, j'écris à voix haute. Et je me suis rendu compte que, bon, après, il faut retravailler. Hein. Mais quand je dis ça autour de moi à des amis écrivains, ils ont un petit regard un peu de mépris en se disant, bon, vraiment, décidément, déjà, elle s'occupe de mode, en plus, elle écrit à voix haute, on ne peut rien faire pour elle. Et figurez-vous que j'ai appris que tant de grands écrivains, mais beaucoup plus grands que moi, écrivaient à voix haute.
Oui, parce que rien de tel que la petite musique, n'est-ce pas, de la phrase lue à voix haute, pour en vérifier le bon timing. L'oreille, en fait, est un juge impitoyable.
Et puis, il y a quelque chose, vous avez raison, il y a une autre raison qui est que, mais ça m'est venu avec le temps, et ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains français qui gagneraient à penser à ça, c'est que au bout du compte, quand on parle à voix haute, on dit, voilà, ça raconte ça. et on commence à raconter une histoire. Et cet acte de raconter, quand j'étais enfant, je disais je voudrais être écrivain public. Cet acte de raconter pour le bien des autres, c'est-à-dire pour cajoler l'autre, hein, que je vous ai touché, ouais. Ça, quand on le fait à voix haute, on est obligé de faire attention. Si moi j'ai déjà raconté des histoires des petits-enfants qui veulent s'endormir, si c'est chiant, comme vous racontez.
Il s'impatiente.
Non, il s'énerve.
Bon, Sophie Fontanelle, après des études de lettres et de linguistique, vous êtes devenue à 21 ans la plus jeune éditorialiste du quotidien Le Matin de Paris. Quotidien fameux, hein, qui vécu 10 ans avec de très grandes signatures. Mais c'est tout de même extrêmement jeune, 21 ans, pour mettre en perspective l'actualité dans un journal créé par Claude Perdriel, je le rappelle, le père du Nouvel Observateur.
Et surtout, j'étais au milieu de gens, j'étais au milieu de Bernard Pivot, Pierre Ajam, Pierre Desproges. Et tout d'un coup, il me rajoute, le directeur du journal. Donc je vais le voir, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Il m'a dit, si vous n'y arrivez pas, Fontanelle, je vais avoir l'air d'un con. Donc, si j'ai l'air d'un con, je vais être très très méchant.
Parfaitement arrivé.
C'était comme ça à l'époque, il y avait pas, c'était, les patrons des journaux étaient très violents. Ben, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Ça a marché.
Ça a marché. Bon, alors en 95, vous avez sorti votre premier roman, Sacré Paul, qui a eu d'ailleurs le prix du premier roman. Mais vous n'avez jamais lâché le journalisme et la presse écrite cosmopolitaine, elle. Vous êtes désormais à l'Obs, vous décryptez les tendances. Dans cet exercice-là, il n'est pas du tout question de fiction. Vous êtes connecté au réel. Vous utilisez d'autres ressorts pour écrire dans l'Obs, ou bien ce sont les mêmes que lorsque vous rédigez un roman?
Mais moi, en fait, je ne pense pas que je sois journaliste. En fait, j'ai eu la carte de presse à une époque, maintenant je ne l'ai plus, je n'ai plus voulu l'avoir. Et en fait, je crois que je suis une conteuse. Et donc, en fait, quand ils se moquent de moi à l'Obs, ils m'appellent Mini Bart. Alors, quand je regarde, disons que j'ai pour moi une très grande sensibilité. Je ne fais jamais la moindre enquête. D'ailleurs, quand on me demande d'en faire une, j'ai un psoriasis, il faut que je me couche, ça ne va plus du tout, je tombe malade. Donc, en fait, ce que je sais faire, qui va très bien avec le Nouvel Observateur, c'est que je sais observer. Donc, je vais au défilé, j'essaie, je vous jure, je ne suis jamais méchante. J'essaie de regarder ce qui me semble dégueulasse, pas bien, pas...
Vous n'en parlez
J'en parle pas. Et je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que cette personne veut me dire? Et je pars en poésie, en fait. Et toutes mes chroniques de l'Obs, tout ça, c'est une forme de poésie pour moi. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Quand j'étais à Elle, que je faisais comment mettre du piment dans votre couple, il me demandait de faire ça. J'adorais le faire, mais moi, j'avais pas de couple. Le piment dans le couple, pour moi, le piment dans le couple, autant vous dire, c'est de lire Musset. Donc, je partais dans une histoire où j'aimais si jamais un jour j'avais un couple. Et je m'amusais et je partais dans un délire. Je n'ai jamais fait la moindre enquête. Je ne sais pas ce que c'est. Quand on me demande d'appeler un sociologue, je l'invente.
Cette femme est formidable. On se promène en compagnie de Sophie Fontanelle. On fait une pause très courte, c'est promis. On la retrouve tout de suite.
Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr Europe 1 avec Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite, c'est ce 29 décembre, en présence de la journaliste Sophie Fontanelle.
Je me demande si Minou Drouet, qui vit en Bretagne, va lire Nobel de Sophie Fontanelle, qui paraît chez Robert Laffont. Sophie Fontanelle est cet après-midi mon invitée. Alors, chère Sophie, on évoquait à l'instant votre grand-père, professeur de littérature, devenu ébéniste à Paris après avoir fui le génocide arménien. Mais les femmes ne sont pas en reste dans votre famille, à commencer par votre grand-mère maternelle, Mélinée Dentelière en Arménie, qui, dans la terreur, dut prendre le chemin de l'exil, donc une page du magazine Vogue cachée dans la manche de son manteau, telle une relique, pour ne pas perdre l'idée que la beauté peut vaincre la laideur. Elle vous l'a souvent raconté, cette histoire, votre grand-mère ?
Oui, on a cherché en vain la page.
Vous ne l'avez jamais retrouvée?
Non, et en fait, moi j'ai toujours su qu'on pouvait... voilà la leçon que j'en ai tirée. Je suis toute jeune, j'ai donné des signes que j'écrivais. Et j'ai toujours su qu'on pouvait aussi raconter des histoires par les vêtements. Et pour moi, les vêtements, c'est pas d'aller s'acheter... si, ça raconte une histoire. Si vous allez vous acheter un truc très très cher et que vous êtes content de le porter, ça raconte quelque chose. Mais... pour moi, les habits, cette passion de ma famille...
Oui, d'ailleurs, vous préférez le terme habit.
Ah, j'aime
comme
bien
souliers
habit.
Plutôt que chaussures. Tout ça est plus noble, n'est-ce pas?
Oui, et je pense aussi que les habits vous habitent. Parce qu'on parle tout le temps d'habiter ces habits. Je pense, les habits vous habitent. Ils vous choisissent. D'ailleurs, ils vous choisissent tellement que parfois, dans une boutique, ils viennent à vous. Vous êtes dans un tas de vêtements au marché, tout d'un coup, vous trouvez le truc que vous cherchiez. Ils vous reconnaissent.
Et avec eux, vous vous donnez à voir au monde.
Oui, exactement. C'est très important. Et Dieu sait si j'aime la nudité, si ça me désole qu'on ne puisse plus trop se mettre seins nus sur les plages, même si c'est encore autorisé, mais on voit bien que ça devient compliqué. J'aime la nudité, mais ce que le vêtement peut faire, l'élégance que peut vous donner un vêtement, l'assurance que peut vous donner un vêtement, l'amour que peut vous donner un vêtement. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pu tomber amoureuse d'hommes parce qu'ils avaient une chemise bleue avec les manches retroussées. Et tout d'un coup, je pense à Jean d'Ormesson, dont je n'étais pas amoureuse, mais enfin, c'était tout comme. Et Jean, tout d'un coup, il venait, il avait le costume vanille, comme ça, beurre frais,
ça
la chemise bleu ciel. Mais ses couleurs étaient les couleurs de l'amour. Et je lui disais, mais c'est pas possible, j'avais envie de me rouler contre son costume. Tout ça est très important.
Voilà, l'habit nous réinvente. Alors, votre maman, Sophie Fontanelle, fille de dentelière, est devenue couturière. Donc, les femmes de votre famille savaient dessiner, votre tante aussi, et dessiner des patrons, tailler le tissu, coudre de façon invisible, délicatement. Elles savaient imaginer et fabriquer une garde-robe. Elles vous ont transmis ce goût jamais rassasié du vêtement. Mais est-ce que vous savez coudre, vous ?
Eh bien oui, je sais coudre.
Non.
Je sais coudre. J'ai très envie d'aller à un stage de piqûre à la machine de modes et travaux qui est pas loin de chez moi, mais parce que je ne sais pas à coudre à la machine.
Machine à écrire et machine
et voilà,
à piquer.
C'est intéressant, non ? Vous faites réaliser à quel point c'est intéressant. Et je sais coudre et surtout, pour moi, la couture, c'était ma mère, ben justement, la poésie se continuait là. Un jour, je dis à ma mère, j'aimerais bien avoir, j'avais vu un manteau chez Issey Miyake. Bon, on avait regardé le prix, c'était trop cher. Alors nous avons fait à peu près 10 voyages chez Issey Miyake. J'occupais la vendeuse, elle prenait des mesures. Après, nous sommes allés au marché Saint-Pierre. Et elle m'a fait ce manteau et j'ai vu le manteau se construire. Mais c'est extraordinaire. Et il n'y avait pas de bouton au manteau Miyake, donc on n'en a pas mis, donc j'ai gelé. Mais j'avais ce beau manteau. Et c'est une écriture, c'est véritablement une écriture. Et je sais coudre, oui.
Alors, votre famille vous a élevé dans la certitude que la France était le pays du chic et de la culture. Bon, en 2019, ça recouvre quoi, le chic ? Et existe-t-il un chic français comme il existe un chic italien, par exemple ?
Oh, quelle vaste question et quelle bonne question ! Mais disons que le chic est maintenant suspecté d'être quelque chose de riche et d'une distinction de gens qui seraient nantis. Je le vois bien sur mon compte Instagram à la manière dont les gens réagissent. Mais c'est une vraie ignorance des gens, parce que là où je vois les gens les plus chics, c'est quand tout d'un coup je vois des images de Cotonou au Bénin, où je vois les gens marcher avec des costumes beiges, et puis tout d'un coup avec une chemise africaine là-dessous. C'est quand on va en Inde, c'est en Grèce où on voit des... J'ai en tête un homme en Grèce, sur l'île d'Hydra, qui met une espèce de grande liquette comme ça... magnifique, espèce de rayée verte et blanche, avec un chapeau sur lequel il a rajouté lui-même une espèce de fleur en tissu. Donc, les gens chics, c'est ça pour moi. Après, je travaille dans le milieu de la mode et je pense que la mode peut aider les gens à accéder à leur chic, en fait. C'est ça, hein, c'est pas qu'elle vous rend chic, c'est accéder à votre chic. Il y a en vous quelqu'un qui peut aimer immensément, grandement, sans faire de vils calculs.
Si vous avez quelque chose à dire de vous, au travers des vêtements.
Ouais. Voilà.
Alors, on le sait, la mode se démode, le style, jamais. Mais quand même, il y a une uniformisation des tendances à chaque saison. Parce qu'en réalité, il y a 4 ou 5 grandes marques maximum, je devrais dire, grands groupes, qui habillent tout le monde, toute génération, tout milieu, tout budget confondu. On le trouve comment, son style, quand dans toutes les villes du monde, on propose la même chose? Je pense à H&M, à Zara. On le trouve comment, son style?
Eh bien justement, c'est là où intervient la culture. Pourquoi est-ce que je sais des choses sur les gens à Cotonou ? C'est parce que j'ai regardé des documentaires. Pourquoi je sais des choses sur les costumes, la manière dont les petites vestes anglaises se fermaient avec 3 ou 4 boutons, contrairement à des vestes françaises ? C'est parce que j'ai regardé des tableaux à la National Gallery à Londres ou bien sur Internet. Et en fait, tout ça, c'est une culture. Il n'y a qu'à regarder un film de Pagnol, regarder comment les gens sont habillés. Il n'y a qu'à regarder Le Mépris et regarder comment Brigitte Bardot est habillée dans Le Mépris et comment elle mit son bandeau. Toutes ces choses-là, c'est la culture. Et si vous ne faites que regarder des vidéos dégueulasses où c'est tout méchant, c'est tous des gens qui sont ridicules, on voit leur cellulite, parce que je ne dis pas du tout que ce soit horrible d'avoir de la cellulite, c'est l'œil du photographe atrocement méchant pour la montrer qui est horrible. Si vous regardez que des choses pour gueuler dessus et dégueuler dessus, bah évidemment, vous n'avez pas accès à la beauté.
Europe 1.
On va en parler de la beauté. On est en compagnie de Sophie Fontanelle, influenceuse sur Instagram, suivie par presque 200 000 fans à la curiosité avide, pour qui vous êtes vraiment une sorte de gourou bienveillant, plein de fantaisie et d'humeur et d'esprit. Sophie Fontanelle qui fait paraître chez Robert Laffont son 15e livre, Nobel envoûtant. À tout de suite.
Europe 1. Interview actualité de l'invité, confidence aussi, c'est ça, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Jusqu'à 16h, vous écoutez Isabelle Morizet sur Europe 1.
Un écrivain féru de mode ou une femme de mode féru de littérature? Ah bon, de toute façon, Sophie Fontanelle, influenceuse sur Instagram et journaliste à l'Obs, fait tout avec style, fantaisie et gourmandise. Son nouveau roman paraît chez Robert Laffont, il a pour titre Nobel. Alors, chère Sophie Fontanelle, j'imagine que vous n'avez oublié ni les mots, ni le regard un peu condescendant de la DRH du journal Elle, le jour où votre départ a été officialisé dans son bureau. Vous aviez, je crois, 52 ans, et dans ses phrases planait comme ça l'ombre d'une petite mort sociale et professionnelle. C'était en 2015, un 1er avril. Ça ne s'invente pas.
Non, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, c'était une blague. Finalement, ce journal, en considérant que j'avais fait mon temps, m'a permis de... Ça m'a fait un lifting, quoi, en fait. Gratos. Non, mais c'est merveilleux, parce qu'en fait, ça m'a permis de m'interroger sur ce que ça veut dire que de parler de mode, ce que ça veut dire de montrer de la mode, et c'est pour ça que j'ai commencé à en montrer sur le compte Instagram, sur moi-même, ce que c'est l'âge, quel est l'âge d'un mannequin, qu'est-ce que ça veut dire vieillir, qu'est-ce que ça veut dire... Enfin, qu'est-ce que c'est le prix d'un habit? Parce que sur Instagram, attention, si vous mettez un habit et qu'il est trop cher, les gens immédiatement disent « mais c'est n'importe quoi, personne ne peut se l'offrir ». Donc, quand vous montrez quelque chose de cher, il faut justifier, c'est très intéressant. Il faut expliquer. Voilà, ça m'a sauvé la vie, en fait.
Ça vous a sauvé la vie parce que vous possédiez les réponses à toutes ces questions. Mais bon, au début de la décennie 2010, il y a une nouvelle génération de Wonder Woman 3.0 qui a dompté le web et pris le pouvoir sur les journalistes. Ce sont donc les blogueuses, les influenceuses qui ont créé leur site sur les réseaux sociaux en donnant leur propre vision de la mode. Tout ça cartonne aujourd'hui sur Instagram. Vous nous parlez d'Instagram et très très tôt, vous avez eu conscience du séisme que ça provoquerait dans la presse.
Oui, j'avais une conscience de ce séisme parce qu'il y avait à Elle, jadis, le courrier des lectrices. Et ça avait disparu. Avant de disparaître, c'était devenu un petit peu une peau de chagrin et puis ça avait disparu. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à faire des blogs ou des ça, j'ai vu l'envie d'interaction des gens. Et à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, un journaliste de mode, c'est quelqu'un qui est là pour parler avec les gens. C'est quelqu'un qui doit être en contact. Il doit y avoir de la vie là-dedans. Sinon, c'est comme si on vous disait « achetez ça !» dont on sait parfaitement
c'est ce qu'on nous a dit pendant des décennies.
Oui, mais si vous voulez, j'ai senti que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et parfois, je lis des papiers atroces pour dire les influenceuses avec... Bien sûr, c'est jamais les influenceurs, hein, c'est les influenceuses avec beaucoup de mépris. Mais,
et un soupçon de jalousie.
Ben voilà, mais l'influence, c'est quelque chose... Moi, par exemple, il y a des amis à moi qui font des livres, qui sont critiques littéraires, par exemple. Puis quand elles sortent un livre, elles me demandent à moi d'en parler, parce que j'ai beaucoup d'influence. Puis moi, quand je sors un livre, elles ne parlent pas du mien, par exemple. Et c'est pas grave, on s'en fiche. Mais les gens savent très bien que c'est utile, l'influence, quand ils en ont besoin. Et moi, je vis l'influence juste comme la possibilité d'échanger avec les gens, en fait.
Oui, mais encore, faut-il avoir les outils, le charisme, le talent, la personnalité pour, justement... avoir cette influence. Vous avez 180 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. Vous avez donc votre propre ligne éditoriale. Vous nous faites part avec humour de vos goûts. On vous suit par les vidéos que vous postez dans toutes les Fashion Week de la planète. En fait, Internet a fait de vous, Sophie Fontanelle, la personne la plus libre du monde.
Oui, c'est ça. C'est une liberté. Mais attention, cette liberté, pourquoi tout ça est arrivé? Parce que on revient à l'idée de bonté. C'est que j'ai choisi. Dans cette ouverture, j'ai choisi la bienveillance. Et je ne suis pas cucu la praline, j'espère, loin de là.
Non, c'est spirituel.
Mais j'ai choisi. Il y a des gens que j'ai bloqués. Mais c'est vraiment des gens qui, tout d'un coup, bon, soit c'est un homme qu'on voit une photo de son sexe, une fois, deux. Quand c'est deux fois, bon, je me dis, OK. C'est des gens qui, tout d'un coup, me tiennent des propos homophobes, m'agressent. Bon, parfois, je suis obligée de bloquer des gens parce qu'en fait, ils viennent. Faire un petit attentat, en fait, chez moi. Mais sinon, j'ai choisi de quelque chose de positif, en fait. Et ça, je pense que dans un univers qui ne l'est tellement pas, ça a fait l'audience que
vous avez. Ouais. Et d'ailleurs, vous ne parlez pas que de mode, puisque on a pu vous suivre dans vos vacances estivales. Non. Donc,
j'ai même raconté comme j'écrivais le livre.
Mais exactement. Donc, on pénètre dans ce que vous voulez bien nous dévoiler de votre intimité.
Et dans ce que j'aime, parce que c'est aussi un conseil qu'on pourrait donner aux gens qui veulent monter des comptes Instagram, c'est une expo qu'on va voir, voilà. C'est tout ce qui nous enrichit en fait.
Alors sur Instagram, on ne voit jamais votre visage dans les selfies. Votre smartphone est juste auréolé de vos cheveux blancs. Pourquoi ce retrait tout en vous surexposant?
Alors pour deux raisons. La première, c'est que en me montrant, parce que souvent je me montre avec des vêtements, des looks que je me fais, parfois avec des vêtements, des fripes, en me montrant, je veux montrer ce que peut faire une femme de mon âge. Et je veux montrer une idée de l'élégance. Ça, c'est la première raison. Je ne veux donc pas qu'on soit dérangé par mon visage.
D'accord.
Et la deuxième raison, beaucoup plus profonde, c'est que je m'en suis un peu guérie. Mais je fais partie de ces gens qui, quand ils se regardent dans un miroir, ou bien j'ai toujours pensé, en fait, voilà, il y a des tas de gens comme moi, qu'en fait je n'existais pas, que je sais pas, je me trouvais pas jolie, mais sans me trouver non plus moche, je me disais ça n'a aucun intérêt, voilà, ça n'a aucun intérêt, et ça vient de très loin, ça vient d'éducation, ça vient de, on m'a peut-être, en fait, on m'a pas du tout dit.
On vous a pas dit assez souvent je t'aime.
Je sais, quand je demandais à ma mère est-ce que je suis jolie, elle disait je peux pas te mentir, tu es à mes yeux évidemment, tu es la plus belle, mais il y aura toujours des petites filles plus belles que toi. Bon ben je mourrais dans notre souffrance à l'idée qu'il y avait des petites filles plus belles que moi.
Oui. Bon, alors parlons des cheveux blancs qui était l'objet de votre avant-dernier livre, Une apparition, et qui d'ailleurs est sorti chez Pocket. On vous présente comme une influenceuse libératrice des femmes, mais vous dites que la première personne que vous avez libérée, c'est vous-même, en osant assumer les cheveux blancs, intégralement blancs, dans une société où les femmes mûres font tout pour les cacher, n'est-ce pas?
Mais en fait, oui, j'ai pas voulu donner des ordres, parce qu'après, ils ont dit que je voulais faire du prosélytisme. Ce que je crois, c'est que si on se sent mal à teindre ses cheveux, et si la raison pour laquelle on continue, c'est qu'on a l'impression que ce qui est en dessous sera horrible, si on se sent mal,
ouais,
alors ça vaut le coup d'essayer d'avoir les cheveux blancs. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'il y a en dessous, c'est la lumière. Donc c'est juste ça que je dis. Mais si on est heureux avec ses cheveux teints, mais qu'on les garde teints, c'est pas pour faire un monde de femmes aux cheveux blancs, mais si ça se trouve, ces femmes passent à côté d'un bonheur qui est tout d'un coup de ne plus regarder les racines en se sentant un peu humiliée, quoi.
Mais se révéler ainsi, avec les cheveux intégralement blancs, ça a tout de même été une sorte de parcours initiatique. Pas évident face aux pour et aux contre. Par exemple, votre amie Inès de la Fressange, je crois, vous a conseillé de dire non, c'est. Donc, il faut quand même pas mal d'audace pour braver des conventions si anciennes qui relèvent autant du social que de l'idée qu'on se fait de la beauté.
Mais en fait, Inès, je pense, elle l'a fait par amour.
Absolument.
Elle l'a fait par amour. Elle s'est dit, elle est célibataire. Elle a cru que tout d'un coup, il y avait un abandon, que j'allais faire mon savon moi-même avec des bâtons de réglisse, que j'allais tout d'un coup... Elle a eu peur que je sois sur une pente de quelqu'un qui n'en a plus rien à faire de rien. C'était l'inverse. Ces cheveux blancs m'ont permis une grande coquetterie. Au contraire, ces cheveux blancs ont fait que moi qui étais pudique, qui n'aimais pas me mettre nue, ben maintenant, j'ai presque du mal à m'habiller en vacances. Parce que tout d'un coup, d'avoir eu cette tête nue, ça m'a donné envie de mettre tout le reste nu aussi.
Alors, revenons à l'univers de la mode, Sophie Fontanelle. La mode, elle explique la nécessité de la futilité dans la vie humaine, et plus encore, puisqu'en s'habillant, on se réinvente. Mais on s'habille rarement pour soi, finalement, sincèrement, honnêtement. On s'habille pour les autres.
On s'habille pour l'idée de soi qu'on veut donner aux autres. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on est... d'ailleurs, on voit bien, moi je vois passer tous les postes en ce moment, des gens qui sont en vacances, des gens qui font mon travail, puis ils disent, bon, finalement, je n'ai plus besoin d'aucun vêtement. Parce qu'ils ont vécu comme ça, sur des îles à la plage, avec un pareo, puis ils ne comprennent même plus pourquoi on s'habille. Donc c'est vrai qu'on le fait pour ce qu'on veut donner comme image de soi aux autres. Après, moi, j'ai pu expérimenter que tout ce sujet est passionnant, car si j'ai rendez-vous avec un homme qui me plaît, tout d'un coup, j'ai l'impression que je ne peux pas m'habiller comme je fais d'habitude. Il faut vraiment que je réfléchisse. Et c'est une prise de tête. Je me change 18 fois. Donc, on voit bien que c'est chargé, quoi. Ouais, comme s'il y avait un érotisme à transmettre. Cela dit, il faut le dire, on se trompe tout le temps. Vous vous habillez très sexy, le garçon a peur et son pénis s'enroule dans son pantalon comme un roll-mops. Enfin, il n'y a aucune règle, en fait.
Il n'y a aucune règle. Et c'est ça qui est bien. Allez, on fait une pause. Je reçois Sophie Fontanelle qui vient de faire paraître chez Robert Laffont, Nobel.
Europe 1. Et en cette fin d'année, vous écoutez Europe 1. Bienvenue, votre dimanche après-midi se poursuit avec Isabelle Morizet. Son invitée aujourd'hui, Sophie Fontanelle, venue parler il y a quelques semaines de son livre Nobel, paru en août aux éditions Robert Laffont. 15h-16h, c'est Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Sophie Fontanelle, à vous, influenceuse et critique de mode à l'Obs, à vous pour qui embellir est un propos dans la vie, j'aurais même pu dire d'ailleurs à vous pour qui embellir la vie est un propos, je pose cette question. C'est quoi votre rapport à la laideur entre les tendances, la dictature de certaines normes, d'un certain goût?
Pour moi, la laideur, c'est le fiel dans l'âme, quoi. C'est vraiment, c'est ça qu'on voit sur le visage de certaines personnes. C'est la tête du président du Brésil. Il a beau se moquer de la femme du président, lui, elle est beaucoup plus belle que lui. Hein. voilà, il est laid parce que ma mère disait, il le porte sur le visage. Voilà, c'est ça la laideur pour moi.
Dans un premier temps, la beauté a toujours plus de pouvoir que l'intelligence.
Il y a
d'ailleurs cette comparaison au cœur de votre livre, n'est-ce pas?
Oui.
Puisque Annette a le talent, Magnus a la beauté, mais pas le talent.
Oui, et puis, mais il pourrait avoir les deux. On voit bien que Paul Auster a les deux. Dans ce livre, il n'a pas les deux. Mais moi, j'étais. On me disait beaucoup que j'étais intelligente. Et en fait, j'en souffrais parce que j'étais contente d'être intelligente. Mais je me disais, alors donc, est belle.
Et les choses sont plus rapides quand on est belle.
Voilà, mais je sais que tout ça est très compliqué parce que j'ai des amis qui sont d'une immense beauté, qui en font le métier de leur beauté, qui sont mannequins et qui sont vraiment splendides. Et elles disent que les hommes qui les courtisent sont très très étonnés de les trouver si intelligentes. voilà, on n'est jamais content.
On n'est jamais content. Mais je pense à cette phrase d'Oscar Wilde. En fait, le problème avec la beauté, c'est qu'elle surpasse le talent, puisqu'elle n'a pas comme lui à se démontrer. La beauté ne se discute pas, elle règne de droit divin. La beauté, c'est une sorte d'injustice magnifique.
Oui.
C'est ça?
Oui. Dans ma famille, on appelait ça les grands sublimes. C'est-à-dire que Gary Cooper, c'est un grand sublime. Brad Pitt, c'est un grand sublime. Et puis, on a beau dire, ça n'existe pas. En fait, c'est pas... En vrai, ça existe. Et d'ailleurs, quand Annette voit Magnus, elle est face à la splendeur. Et il y a des gens splendides. C'est une réalité. Ça ne veut pas du tout dire que ça va être un cadeau pour eux dans la vie. Pas forcément.
Hein. On ne vit plus dans une société de mots, Sophie Fontanelle. On vit dans une société d'images et d'icônes suivies par des centaines de millions de followers. Et là, je pense à la famille Kardashian. Les dégâts ne seront que plus grands.
Mais je pense qu'on a une soif. On vit dans des mots. Attendez, on vit dans des mots, mais on y reviendra peut-être très agressif. Mais surtout, on a une soif de mots nourrissants absolument dingue. Et il suffit, vous savez, quand vous écoutez la radio, et puis tout d'un coup, quelqu'un cite la phrase d'un écrivain. Et bien, dès qu'on cite la phrase d'un écrivain...
Ça, c'est clair.
Voilà, tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Tout le monde fait « Ah !» Et le monde change de plan. Donc, on en a besoin de ces mots-là.
Voilà, on revient justement au début de cette conversation, le pouvoir des mots. Alors, parlons de l'âge. Parce que vous dites... Il y a l'âge qu'on s'autorise et l'âge qu'on pulvérise. Mais avec les années qui passent, pour être agréable à regarder, il faut surtout s'allumer de l'intérieur. Elle est très jolie, la formule. J'ai lu, vous l'avez dit. Mais vous y prenez comment pour vous allumer de l'intérieur, Sophie Fontanelle?
Il y a des jours, j'y arrive pas. Mais ce qui est génial avec le fait qu'on n'y arrive pas, vous avez remarqué que parfois, vous prenez l'ascenseur chez vous pour descendre. Et puis vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur et puis vous n'êtes pas allumé. C'est « ça va pas », en fait, vous vous dites « mais en fait, c'est n'importe quoi, enfin je suis moche, je vieillis, puis ça ». Et puis, deux secondes plus tard, vous passez devant le miroir du hall, et puis là, vous dites « ah, mais en fait, mais si, mais je suis allumée ». Et en fait, ça change à toutes les secondes. Et l'important, ça n'est pas d'être allumé tout le temps. L'important, c'est de savoir au fond de soi qu'on contient un petit feu follet à l'intérieur de soi qui nous permet, peut-être même sans qu'on le sache, qui envoie des petits signaux de lumière. Voilà,
vous avez tous les âges en même temps, c'est ça? Vous passez de l'adolescence à la maturité. À la...
Vieillir, c'est vraiment...
C'est la phrase de Victor Hugo, d'ailleurs. Vieillir, c'est avoir tous les âges.
Ah, mais je ne savais pas, c'est génial. Parce que c'est vraiment le cumul de... Et puis, on est très fort un enfant quand on vieillit aussi. Hein. L'enfance est là, très très forte.
Alors, tout désormais se mélange, j'en viens à la mode, à l'image, tout désormais se mélange comme si un seul genre allait remporter la bataille, l'androgynie. Vous en pensez quoi, vous, la décrypteuse de tendance, la critique de mode, l'androgynie ?
Bah, sociologie.
On nous dit maintenant que pour une femme, être féminine, c'est presque un adjectif rétrograde.
Oui, alors peut-être ça dépend aussi des histoires des uns et des autres. Moi, j'ai été un garçon manqué. J'ai, comme je vous dis, on ne parlait pas trop de beauté aux petites filles dans ma famille. Donc en fait, pour moi, quand j'ai commencé à voir Monica Vitti au cinéma, quand j'ai commencé à voir Brigitte Bardot, quand j'ai commencé à voir Marilyn Monroe, je me disais un jour, quand je serai grande, hein, mais j'arriverai, j'aurai une jupe comme ça, j'aurai des petites chaussures comme ça, j'aurai mon petit sac à la main. Et pour moi, devenir une femme féminine, même si je peux me mettre des grands pantalons larges et androgynes, mais c'était mais tellement agréable. Et quand je suis dans ma baignoire toute nue, de voir ce corps féminin, je ne suis pas du tout sur une histoire d'androgynie. Je suis heureuse comme tout d'être cette femme. Et je pense que la difficulté aujourd'hui des femmes, c'est que, enfin je ne sais pas pour les autres, mais à part celles qui ont trouvé l'amour, c'est tellement difficile de trouver des hommes qui acceptent d'être aussi dans cette joie de voir une femme qui est juste une femme, elle a le corps qu'elle a, et un homme qui est juste un homme avec le corps qu'il a. C'est tellement dur, on a l'impression qu'on est devenu tellement, c'est tellement difficile
parce
à regarder les
défauts.
Parce
que ce n'est pas ce que nous renvoient en fait les magazines de mode pointus.
Puis tout, même les séries, tout, partout en fait.
Nous sommes d'accord, on fait une pause avec Sophie Fontanelle qui vient de faire paraître Nobel chez Robert Laffont. On la retrouve tout de suite.
Europe 1. Et en cet après-midi lumineuse, profitez du soleil à l'écoute d'Europe 1. Chaque samedi et dimanche de 15h à 16h, vous êtes avec Isabelle Morizet. Et aujourd'hui, la journaliste Sophie Fontanelle. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Suite et fin, c'est maintenant sur Europe 1.
Sophie Fontanelle, Nobel, qui paraît chez Robert Laffont, ce nouveau récit solaire, sensuel, qui pose les vraies questions autour de l'émergence du talent d'écriture chez une enfant qui a tout encore à découvrir du monde et qui pourtant déjà le met en mots mieux sans doute que les adultes. D'ailleurs, on se prend à imaginer que l'héroïne c'est vous. Eh bien ce récit, vous nous l'offrez comme un roman, car vous dites qu'il y a une saturation du réel aujourd'hui. Des documentaires, des biopics, des images d'infos, on en surconsomme. Le réel en fait nous mange la vie. Il faut réapprendre à rêver.
Moi, c'est parti de ce désir-là. C'est que j'ai écrit beaucoup de livres, je n'ai pas de souci à le faire, en me racontant, bien avec beaucoup d'imagination, mais en me racontant. Et puis, le problème quand on se raconte ou quand on raconte la vie de quelqu'un qui a existé, genre Nourrieff ou Françoise Sagan, c'est qu'on est collé quand même au vraisemblable. Alors que dans un roman, en fait, par exemple, cette petite fille... Je lui ai donné le prix Nobel, et c'est pas à moi que j'ai donné ce prix Nobel, c'est vraiment la petite fille que j'ai inventée. J'ai donc pu trouver pourquoi tout d'un coup c'était fascinant. Pourquoi tout d'un coup quelqu'un qui est consacré va parler du roman qu'il n'a jamais écrit en fait, qui est le roman du moment où il a compris, ce qu'elle a compris c'est qu'elle avait du talent, mais elle a compris que le talent ça allait avec la solitude. Et... cette imagination-là, le fait que quand elle est malheureuse, au lieu de dire bon, bah, qu'elle est malheureuse, tout d'un coup, elle voit le sol qui s'ouvre sous ses pas, elle a l'impression qu'il y a un tremblement de terre, et elle regarde partout, mais personne ne le voit, il n'y a que moi. Donc en fait, c'est de faire de la féerie qu'il y avait dans Giono, qu'il y avait dans Bosco, dans Pagnol, donc de pouvoir revenir à cette espèce de monde où le féerique existe, je ne comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant.
Bon, vous êtes féministe, mais pas écrivaine. Vous êtes écrivain, et plus encore, vous vous présentez comme écrivaste. Hein ? Écrivaste.
Alors, je suis d'une génération où on disait écrivain. Donc, tout d'un coup, on me dit qu'il faut dire écrivaine. Je comprends tout à fait que effectivement, il n'y a aucune raison qu'on ne le dise pas. Donc là, j'ai pas d'objection.
Écriture inclusive, tout ça.
En revanche, moi, ce que je vois, vous parliez d'androgynie tout à l'heure, c'est que, pour moi, un écrivain, c'est pour ça que j'aime bien qu'on n'a qu'à dire écrivaste pour les hommes et les femmes, et puis comme ça on n'en parle plus. Un écrivain, c'est quelqu'un qui est ni homme ni femme. C'est quelqu'un qui justement est capable de décrire aussi bien un homme qu'une femme, d'incarner aussi bien un homme qu'une femme. Et tout d'un coup, en mettant écrivaine, pourquoi ça m'a tout le temps dérangé ce mot ? Il me dérange parce que c'est comme si écrivaine, Vous vous disiez, vous avez déjà la moitié des lecteurs masculins qui ne vont pas le lire, en se disant, bon, ok, écrivaine, elle va nous raconter son rapport, son utérus. Bon, et pourquoi pas, il y a des filles qui ont fait des livres extraordinaires là-dessus, mais pour moi, un écrivaste, et pas écrivasse,
oui. Hein, là, mais, ça n'a pas de genre.
Voilà, un écrivaste, c'est quelqu'un qui, voilà, s'il a envie d'écrire en se mettant à la place d'une tortue, eh bien, il devient une tortue. Donc, faut qu'on arrête de nous coller, de nous mettre par genre là-dedans.
Et puis, vaste comme l'est le monde, vaste comme doit l'être l'imaginaire, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans votre livre, Nobel, il y a un très joli passage sur ce mot, écrivaste. À quel âge le devient-on? Kléber, qui est l'écrivain célèbre, le sage dans votre livre, confesse, bon, à 27 ans, moi, je n'étais qu'impressionnant. À 37, j'étais sensationnel. À 47, on rédigeait des thèses universitaires sur mon travail, alors je devenais un intellectuel. À 57, l'éducation nationale mettait mes livres au programme du bac. Mais en fait, est-ce que j'étais vaste? Non, j'étais juste officiel. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui pour vous sont des écrivains, écrivastes justement, qui, votre panthéon à vous, Sophie Fontanelle?
Ah ben vous lire dans ceux qui sont vivants?
Ah vous, dans, non, oui, oui, non, ou mort?
Non, non mais il faut qu'on refasse 2 heures d'émission.
Ah bon, c'est, d'accord, c'est pas un
non,
problème.
Vaste et vaste, certains romans de Jean-Marie Le Clézio sont vastes. Voilà, c'est un écrivaste, lui. Gabriel Garcia Marquez est vaste. Il y en a tellement, Camus. Il s'en est plein, Dieu merci, des écrivastes. Marguerite Duras est vaste et quand même Marguerite Yourcenar, vaste, la vastitude absolue et à qui on ne voulait pas donner l'entrée à l'Académie française.
Absolument. Alors moi j'imagine votre appartement en fait à la fois comme une bibliothèque et un dressing.
C'est exactement ça.
Et pas grand chose entre une bibliothèque et un dressing.
Alors et faut ajouter que cette bibliothèque et ce dressing sont sans cesse épuré. C'est-à-dire que je ne garde pas les choses, parce que je pense que quand on écrit, on a besoin d'un univers un peu monacal et nu.
C'est drôle que vous disiez ça, Sophie Fontanelle, parce que dans votre livre, vous faites dire à l'un des personnages, tout ce qu'on écrit, on s'en débarrasse. Annette, l'héroïne, dit, même si c'est des gens, et Kléber répond, surtout si c'est des gens. En fait, quand on écrit, on se débarrasse.
Ben disons que si on écrit sur un problème ou sur quelqu'un, ou sur, c'est parce que dans le réel, ça ne suffisait pas. Donc on en fait quelque chose et en fait, tout simplement, le plaisir est pris. Le plaisir d'écrire est immense. Et une fois qu'il est pris, ben, c'est comme dans la vie. Vous savez, c'est la tour de magie, l'histoire extraordinaire, la blague, très drôle, on peut la raconter, d'un garçon qui dit à une fille, ça pourrait être une fille qui le dit à un garçon, tu viens chez moi, on fait l'amour et après tu disparais. C'est ça, écrire.
Nobel vient de paraître chez Robert Laffont. C'était un bonheur de deviser
merci
comme ça
de
et de se promener avec vous. Sophie Fontanelle, surtout ne passez pas à côté de ce livre enivrant. Je vous souhaite eh bien voilà, une très belle fin d'été. De toute façon, je vous suis sur Instagram et je sais où vous serez demain. Je vous embrasse.
Au revoir.
Merci Isabelle Morizet, à la semaine prochaine. Le week-end prochain dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, vous recevrez notamment Catherine Ney, une des grandes voix d'Europe 1, l'occasion d'évoquer sa carrière de journaliste et son dernier livre Souvenir, souvenir, paru aux éditions Laffont.